Imaginez que la vie est un long fil et que vous évoluez en équilibre sur celui-ci, tel un funambule, un pied après l'autre. Si chacun progresse à son rythme, sa propre technique et ses capacités, il n'est aisé pour personne de maintenir une cadence parfaite. Dans Sur un fil, j'interroge des hommes et des femmes qui tentent de trouver ou garder l'équilibre entre leur vie familiale et professionnelle, leurs convictions et leurs actions, ou leur vie extérieure et leur vie intérieure. Quel funambule êtes-vous ? Avez-vous peur de tomber ? Ou comptez-vous sur un filet de secours hypothétique ?
Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Thierry, médecin généraliste. Son équilibre se situe entre une pratique de la médecine tout aussi éprouvante que passionnante et une vie de famille qu'il tente un maximum de préserver pour son bien-être.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Mais donc je vais bien, c'est une journée un peu sous pression comme d'habitude, mais je vais bien.
Alors pourrais-tu commencer par te présenter en quelques mots ?
Oui, donc je suis papa de 3 petits-enfants, marié, donc j'ai 3 enfants, Valentine, Augustin et Charlotte, et je suis médecin généraliste dans le Brabant Wallon depuis presque 15 ans. J'ai toujours voulu faire ce métier-là et j'ai la chance de travailler avec une équipe autour de moi.
Est-ce que la médecine a toujours été une vocation pour toi depuis ton plus jeune âge?
Alors oui, donc dans la mesure où au tout départ je voulais d'abord être boulanger sur un bateau jusqu'à l'âge de 6 ans.
Ok.
Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucun marin dans la famille. Et puis c'est vrai que ça a été assez vite le côté médecin et surtout le côté médecin de famille, dans la mesure où je trouvais que c'était chouette de pouvoir accompagner les patients dans leur globalité, par rapport à leur famille, par rapport à l'évolution dans leur temps, donc à un enfant qui devient ado, un ado qui devient parent. Donc je trouvais ça toujours chouette de pouvoir accompagner les patients dans leur globalité, dans leurs histoires aussi, et je voulais fuir l'hôpital. Ça, c'était une évidence que je voyais. J'étais pour le côté contact dans un cabinet, dans un milieu semi-rural.
Et aujourd'hui, est-ce que tu parviens à rester aligné avec ce qui t'animait au début de ta carrière, ce qui t'a fait choisir ce métier?
Alors je dirais que c'est clair que la période Covid a quand même pas aidé, dans la mesure où on a eu... je dirais le métier pour moi reste un métier magnifique, ça c'est sûr, parce que voilà, j'ai l'impression de la chance de faire un métier où je me dis lundi matin, chouette, je me retrouve à faire un des plus beaux métiers du monde, je trouve, dans la mesure voilà, où on se sent utile du matin au soir, où on a l'impression qu'on accompagne les patients, qu'on se retrouve à les aider dans une situation difficile, qu'on les voit évoluer eux-mêmes, c'est-à-dire que quand ils vont moins bien, ils se retrouvent mieux quelques semaines ou quelques mois après. Maintenant, c'est sûr que la période Covid a beaucoup bouleversé, parce qu'on s'est quand même senti fort sous le front d'une épidémie où on n'était quand même pas très protégé, avec malheureusement une montagne, si pas une pyramide de paperasse et d'administration qui était quand même assez conséquent, et qui ont parfois perdu le sens de notre métier à la base. Donc ça, je pense qu'effectivement, parce qu'on avait l'impression de devoir faire des codes pour des gens qui partent en week-end en amoureux, pour devoir gérer des certificats médicaux pour tout le monde, de devoir informer, de devoir traduire les explications qui n'étaient pas toujours claires de toutes les codes éco et autres mesures belges et européennes, si pas mondiales. Donc ça, je pense que ça a joué. Je pense qu'on a essayé de faire aussi au mieux pour les vaccins, avec malheureusement parfois l'envers du décor aussi. Ça veut dire qu'on nous a un peu accusé maintenant d'avoir voulu vacciner tout le monde, alors que le vaccin n'est peut-être pas aussi top dans la protection au niveau de la contamination maintenant aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que ça, c'est clair que le Covid a quand même n'a pas été facile, je dirais, pour moi. Et surtout, le plus difficile, c'était de trouver l'équilibre entre la vie privée, donc c'est-à-dire la vie de famille, et la vie de métier, du métier qui est une vocation, que j'ai toujours fait avec passion, et donc c'était compliqué d'arriver à trouver une solution entre les deux.
Au niveau horaire, notamment, tu as vraiment ressenti une différence?
Oui, clairement, au niveau horaire, au niveau fatigue, au niveau charge mentale, au niveau notamment les week-ends. Tout ça, après qu'au départ, on s'était dit que le médecin traitant était censé être disponible 7 jours sur 7 pour protéger les hôpitaux, et donc c'est sûr que ça a eu quand même pas mal de conséquences par rapport à la famille, par rapport à la disponibilité. Mes enfants restent petits, donc je me dis que pour eux, ils ont quand même eu un lourd tribut à payer là-dessus. Mon épouse aussi, car elle a l'impression effectivement d'avoir un mari qui est parfois un peu une petite épave, comme elle me dit, après une semaine de congé, alors qu'elle reste amoureuse. Mais donc ça, c'est vrai que c'est le côté un peu pas facile. Voilà, maintenant je pense que si on est armé pour le Covid, on sera armé pour presque tout après.
C'est le point positif.
Ouais. Voilà.
Et tu parlais de l'équilibre, attaches-tu de l'importance à la notion d'équilibre dans ta vie?
Alors clairement que oui. Maintenant c'est un équilibre qu'on peut pour moi remettre tout le temps, je dirais, en enjeu, et tout le temps essayer de le rééquilibrer. Dans la mesure où j'ai toujours voulu être papa, par exemple, et c'est vrai que avant le petit troisième, mon épouse m'a dit, écoute, j'ai un souhait, c'est que tu rentres à 19h 2 soirs par semaine. pour assumer le rôle de papa aussi. Et c'est vrai que ben voilà, donc j'ai travaillé avec des jeunes médecins pour m'aider pour ça. Et que voilà, que même si on veut tout le temps aller dans le bon sens, ça reste quand même compliqué d'arriver à respecter ses engagements par rapport à ça. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y a la pénurie de médecins, qu'il y a toute la polémique autour du numerus clausus et des conséquences du manque de soignants dans notre pays qui aggravent les choses. Il y a les médecins âgés qui ont arrêté, donc c'est vrai que c'est toujours un équilibre à retrouver. Ce que j'ai trouvé comme compromis, c'est de prendre quand même pas mal de congés, ça je pense que c'est important. Travailler en équipe avec une super équipe, ça c'est clair que ça joue beaucoup. Une secrétaire qui est dévouée, enfin les assistants qui sont top, et j'espère des collègues à terme. Et donc ça je crois que voilà, que c'est sûr que ça aidera. Maintenant effectivement les congés, j'arrive à quand même plus déconnecter, ça c'est sûr. À part pour les patients en fin de vie quoi. Voilà. Où là je reste quand même presque toujours joignable, que ce soit jour ou nuit, mais que je trouve normal.
Oui. Mais c'est un choix aussi qu'on fait en tant que médecin.
Mais pour moi, je pense que médecin de famille, c'est accompagner, je dirais, les bébés après le côté pédiatre. Et je trouve que c'est logique d'accompagner ses patients jusqu'au bout. Enfin, nos patients et aussi leur famille. Et donc, c'est sûr que voilà, je crois qu'il n'y a quasi aucun de patients qui a eu un médecin de garde pour un cas de fin de vie ou un cas palliatif. Donc, c'était ou moi ou mes assistants maintenant. Mais ça, je trouve ça normal. Je trouve que ça fait partie de mon accompagnement, et c'est là que c'est vraiment difficile aussi, où on a l'impression qu'on est vraiment utile et où on peut accompagner les patients pour qu'ils puissent partir le plus paisiblement possible avec leur famille.
Oui. Et du coup, considères-tu que tu as trouvé un certain équilibre aujourd'hui, peut-être plus qu'avant?
Alors, je dirais au départ, j'ai travaillé en solo, donc au départ, j'ai un peu tout donné pendant presque 10 ans en voulant jouer au sauveur du monde et sans limite. Et puis, c'est vrai que je me suis rendu compte que voilà, qu'il y a un moment où, quand on voit autant de patients, on les voit pas comme on a envie et on se retrouve à plus savoir gérer un espèce de pilote automatique. Donc, c'est là que je me suis dit que travailler en équipe, ça pouvait être chouette. Travailler en équipe, ça permettait aussi le côté apprentissage, le côté remise en question que je trouvais vraiment chouette dans la mesure où la médecine évolue, donc c'est bien d'avoir un regard neuf. Donc il y a notre expérience, mais il y a aussi tout l'échange par rapport au sang neuf, entre guillemets, et aux nouvelles pratiques. Ça permet de remettre beaucoup de choses et puis ça permet aussi qu'on est moins seul pour les cas plus difficiles aussi. C'est-à-dire qu'on peut en parler, et donc on se retrouve moins en solo. Donc ça a quand même fort aidé, ça c'est sûr. Maintenant c'est vrai qu'on refuse quand même pas mal de nouveaux patients par semaine, ce qui moi me rend triste, mais c'est sûr qu'il y a un moment où on n'a pas envie de perdre en qualité. Et donc c'est vrai que quand ma secrétaire se retrouve un peu sur le front à dire non, on prend pas de nouveau pour le patient pour le moment, ben c'est pas facile car c'est pas mon idéal, mais en même temps voilà, je veux faire le mieux pour les patients qui m'ont fait confiance quoi, et qui nous ont fait confiance. Par rapport à la vie privée, effectivement voilà, je pense que d'essayer d'arriver à couper le téléphone la nuit, ça c'est quelque chose qui est pour moi compliqué à faire, mais j'essaie de le faire un peu plus et se recharger au niveau de la vie privée, ça c'est indispensable. Je pense que j'aurais le même métier en étant célibataire seul le soir ou le week-end sans enfant, j'aurais du mal, ça c'est sûr.
On a besoin d'être entouré.
Oui, et je pense qu'entouré permet aussi de se protéger, de mettre des limites aussi, donc ça permet d'arriver à trouver le meilleur équilibre. Et il y a un patient qui m'avait dit d'ailleurs à l'époque, je trouvais ça pas mal, de savoir dire non à un patient, savoir dire oui à sa famille et à son couple et à soi-même, et je trouve que ça va, c'est quand même, il y a des fois où quand j'hésite à prendre une semaine de congé, ben je me dis ben effectivement mes enfants ils ont besoin de moi aussi. Donc voilà.
Et quels éléments ont tendance à menacer en fait cet équilibre de vie entre ta vie privée et ta vie professionnelle?
Alors éléments, c'est que je fais mon métier avec mon grand cœur et avec passion, donc moi ça reste c'est une chance de faire un métier que je trouve littéralement passionnant, que j'adore l'humain au sens large, et donc je suis probablement investi sans limite. Et donc c'est vrai que par rapport à ce côté-là, c'est pas facile d'arriver à recadrer et à savoir dire non. Donc voilà, et c'est vrai que je dépasse souvent le délai d'une consultation parce que je prends le temps qu'il faut. Et donc c'est vrai que tout ça, tout ce retard-là, ça c'est au détriment du côté familial après. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a parfois des patients qui ne sont pas contents de devoir attendre une demi-heure ou trois quarts d'heure dans la salle d'attente, mais en même temps, c'est vrai que dans le fond, ceux qui paieront le plus lourd tribut, c'est mon épouse qui va peut-être préparer le repas et mes enfants qui voudront avoir un bisou, une histoire du soir avant de dormir. Donc ça, c'est pas facile.
Et mis à part ta famille, est-ce qu'il y a d'autres échappatoires qui te permettent de te recentrer?
Alors c'est vrai que j'ai tendance quand même à m'oublier, parce qu'effectivement trouver l'équilibre déjà entre le boulot qui prend beaucoup de place, la famille où j'ai envie d'y accorder beaucoup de place, c'est un petit peu compliqué de penser à moi. Maintenant je vais quand même courir, je cours pour ma forme qui est très chouette, donc ça je vais courir le lundi soir, quoi qu'il arrive à 19h30, ce qui permet de faire du bien, et c'est vrai que j'avoue que c'est vraiment le temps en famille, le temps en couple qui est pour moi ressourçant. On fait aussi pas mal de balades avec des amis, notamment le week-end, des totemus et autres, qui sont très chouettes aussi. Ça permet de se retrouver dehors, à l'extérieur, donc diminuer le risque de Covid, pouvoir voir des personnes et d'être dans le vrai. Mm-hmm. Et voyage, c'est clair que j'adore aussi.
Ah oui, ok.
Ouais. Mm-hmm.
Même si c'était un peu plus difficile aussi ces derniers
temps.
Alors
c'était plus compliqué, mais en même temps, voilà, on a aussi pris le pass museum avec les enfants, qui permet de voir des petits musées, de se balader autour, donc ça en a quand même profité aussi, même si on n'a pas fait de voyage très loin à cause du Covid.
La pandémie, selon toi, a profondément bouleversé ta manière d'exercer. Alors, et à quel niveau ?
Et à quel niveau ? Alors je dirais, j'ai essayé que non. Maintenant c'est sûr qu'on a dû... Au départ en tout cas, il y a eu un grand bouleversement, c'est qu'on a voulu à tout prix éviter des contaminations au sein des cabinets. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que de commencer à avoir des personnes qui étaient malades était dangereux pour les personnes qui étaient non contagieuses. Donc on a vraiment voulu protéger nos patients. D'où l'idée de la création notamment d'un centre de test pour tester les patients en dehors des cabinets dans un mode driving, ce qui permettait de diminuer le risque de transmission pour les soignants et pour les patients aussi. Il y a eu tout ce qui est consultation par téléphone où on n'avait pas du tout l'habitude, donc avec l'incertitude de gérer la médecine de manière nouvelle, parce qu'on n'est pas du tout appris à gérer une consultation par téléphone, ça s'est clairement changé aussi. Il y a eu la tâche administrative qui a pris une place comme une marée de tempête, je dirais. Avec effectivement arriver à gérer les moyens de communication par rapport aux patients pour les aider et pour nous protéger. Maintenant, ce qui a été pas facile aussi, c'est vrai qu'on a été quand même passé de demi-dieu au début du confinement où tout le monde applaudissait à 20h, avec quand même, je trouve, beaucoup moins de respect. Donc j'ai essayé quand même pas mal de recadrer les choses pour nous protéger, surtout ma secrétaire qui est vraiment sous le front, mes assistants. Donc c'est comme ça que j'ai notamment eu la chance de contacter Philippe Gueluc qui a fait d'autres projets d'affiches et Pierre Kroll qui a fait l'affiche pour nous protéger. La première était vraiment dans le but de sensibiliser les patients par rapport aux gestes barrières, parce qu'on voyait le nombre de gens qui ne comprenaient pas se laver les mains ou mettre bien leur masque. Et la deuxième, c'était vraiment par rapport au harcèlement qu'on a eu pour le choix du vaccin, où tout le monde voulait le vaccin dernier cri par rapport à ses concurrents. Et donc ça, Pierre Kroll a fait une affiche assez top. Et puis la dernière, c'est vraiment dans le but de solidarité aux soignants, qui est vraiment dans le but de soutenir les soignants et donc de revenir vers un esprit... collaborant, dans la mesure où on n'est pas responsable de cette crise, on est les premières victimes et nos familles sont encore plus victimes que nous, quoi. Donc ça, je crois que c'est vraiment important de se rendre compte de faire partenariat avec nos patients pour essayer de faire les choses de garder le respect pour son soignant et de faire un partage de chemin ensemble et d'arriver à discuter et de comprendre qu'on a malheureusement nos limites aussi et qu'il y a un problème probablement beaucoup plus gros qui est la limitation des nombres de médecins. Et je pense que là, c'est vrai que ce serait chouette que le fédéral et le millefeuille politique belge puissent trouver une solution pour qu'on puisse vraiment faire les choses correctement.
Et vous avez ressenti un peu plus d'agressivité, en fait, la part des patients ?
Oui. Souvent, je dirais déguisé, donc rarement par rapport à moi directement, plus par rapport à la secrétaire.
Ah, oui.
Du genre, oh, il est encore en congé, je veux dire, alors qu'il est encore en congé, il travaille... aller entre 12 et 15 heures par jour, il travaille parfois la nuit, il répond le week-end aussi. Donc ça, c'est vrai que c'était quand même un peu sentiment d'injustice. Surtout la transition entre le côté demi-héros du début avec effectivement après le manque de respect. Maintenant, je crois que les gens sont en colère par rapport au virus, mais nous, on n'en peut rien. Quoi. Mm-hmm. On est les premières victimes et je trouve que nos familles qui sont souvent oubliées par rapport à ça.
Mm-hmm.
Car on voit les épidémiologues qui sont super, on voit les intensivistes, on voit les urgentistes. On s'en fout déjà un peu plus des généralistes parce que le seul critère, c'est vraiment toujours les lits des soins intensifs en Belgique depuis le début. C'est les fameux 2000 lits qui ne sont plus qu'en gros, je crois, 1600 maintenant, tellement il y a beaucoup de soignants qui ont arrêté. Et c'est vrai que la première ligne n'a jamais eu un rôle très respecté. Et la famille de la première ligne a encore eu probablement un rôle encore moins respecté, malheureusement. Donc ça, on le sent. Maintenant, le tout aussi, c'est que ça a quand même pas mal déséduqué nos patients, dans la mesure où ils ont eu l'habitude de tout par WhatsApp, Messenger, mail, SMS. Et ils n'hésitaient pas à envoyer 4-5 mails quand on ne répondait pas directement, alors que notre métier premier, c'est de revoir les patients en vrai.
Mm-hmm.
Je veux dire, avant, j'avais pas d'adresse mail, avant, les patients ne communiquaient pas par WhatsApp. Donc, on avait vraiment une médecine qui était, je trouve, beaucoup plus chouette, dans la mesure où on était là pour le patient pendant la consultation, et on était moins dérangé par une perturbation de demande en tout genre, où je pense qu'on aurait pu engager d'autres personnes plutôt que nous.
Mm-hmm.
Donc, et je crois que si on avait déjà fait une information plus claire et cohérente, ça aurait déjà changé tout. Parce que je trouve que la communication, même pour nous, il y a des fois où on se disait, tiens, quelles sont les règles si je suis vaccinée, que ma fille était en contact à risque, ou si je vais partir à l'étranger. Elles sont complexes.
C'est extrêmement complexe, oui.
Voilà. Ah, mais il faudrait faire un an d'unif en plus pour,
ouais, c'est ça.
Pour comprendre.
Mais surtout qu'il faut se mettre à jour tout le temps parce qu'elle changeait aussi.
Voilà, voilà. Elle change tout le temps. Ouais. Et parfois, il y a des fois où on ne comprenait pas trop non plus. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'on devait à la fois dire oui à des mesures qui étaient parfois bizarres, par exemple en maison de repos. On a dû tester énormément les personnes âgées, alors qu'à l'époque, on aurait pu éviter des décès, mais on n'avait pas les tests. Donc, mm-hmm. Et maintenant, c'est vrai que moi, j'ai testé, je crois, 8 fois une maison de repos depuis le mois d'octobre, alors que le dernier décès date de janvier 2021, quoi, et qu'on est en février 2022. Quoi. Donc c'est quand même, on se demande le sens mm-hmm. de priver les gens de leur liberté alors qu'il n'y a plus de décès. Quoi.
Ouais.
Ça jouait beaucoup. Et c'est sûr qu'effectivement, voilà, je crois que c'est vraiment le côté rééducation des patients qui est important aussi à faire maintenant. Parce qu'ils ont eu l'habitude du tout de suite, ils avaient l'ordonnance de recevoir leurs ordonnances sans passer par les consultations, de demander leurs examens sans passer par chez nous. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que ça a dû maintenant, voilà, il faut leur faire comprendre que nous, on veut faire de la prévention et on veut faire notre métier avec notre cœur et pas juste répondre à une demande de 4 boîtes d'antidépresseurs parce qu'on les a plus vus depuis un temps dingue, mais que l'antidépresseur n'était pas la solution non plus et c'était de voir comment faire pour les aider dans le fond. Quoi. Mm-hmm. Ça a beaucoup changé.
Et tu parlais de WhatsApp et compagnie. Oui. Justement, qu'as-tu mis en place de différent pour traverser la période de la pandémie par rapport à ton exercice de la médecine avant?
Alors avant, c'était clairement que sur rendez-vous, voilà, je répondais quasi pas aux mails, j'avais même pas d'adresse mail. Et puis c'est vrai qu'avec la pandémie, ben, on a voulu jouer au super-héros par rapport à ça. Et je crois qu'on s'est senti aussi à ne pas vouloir faire comme le capitaine du bateau en Italie, là, qui est parti avant que le bateau coule et avant tout le reste. Et donc on s'est senti logique dans un devoir de... Et même, voilà, ça avait un sens d'être à 100% disponible, à tel point que j'ai même hésité au début pour protéger mon épouse et mes enfants à dormir ici au cabinet, dans la chambre au-dessus, en me disant, mais voilà, mais je retire les archives et je me mets un matelas ici pour la protéger, elle. Et c'est après discussion où elle m'a dit, écoute, moi j'avoue, j'ai pas envie de me retrouver veuve ou célibataire et mes enfants orphelins ou incapables de divorcer. Et c'est là que je me suis dit, bah, effectivement, mais c'est vrai que j'étais quasi prêt à me mettre... Et on s'est clairement mis en danger aussi au départ. Je veux dire qu'on n'avait pas de protection au départ. Mm-hmm. Enfin, les masques FFP2, on les payait 10 € au marché noir par rapport à ça. Donc ça a quand même aussi été pas facile à gérer. Donc voilà.
Et de façon générale, encore aujourd'hui,
oui.
Est-ce que tu penses qu'on exerce la médecine différemment? Est-ce qu'on va justement revenir à la méthode d'avant? Ou est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça?
Alors, je pense que voir les patients en vrai, c'est 1000 fois plus intéressant que voir les patients par téléphone. Je pense que c'est beaucoup moins dangereux aussi. Je crois qu'on vient d'une médecine, en gros, de guerre. Je veux dire, voilà, avec quelque chose qu'on connaissait pas, avec plein d'inquiétudes pour ça, une maladie qu'on maîtrisait pas. Et donc, je pense qu'on a essayé de limiter les choses en nous mettant un peu comme les soldats de la guerre 14-18 sur le front. D'ailleurs, j'étais en Normandie à la Toussaint, et quand j'ai vu j'ai un peu eu le même sentiment dans les tranchées, même si je pense que ce qu'ils ont vécu est prenant 1 milliard de fois pire que ce qu'on a vécu nous, mais j'ai eu le même ressenti. Mmh. Voilà, maintenant, je pense que la solution hybride, il y a du bon. Maintenant, je crois qu'il faut travailler en équipe, ça c'est indispensable, parce que je crois que sinon, on ne tient pas. Par rapport à l'équilibre entre la vie privée et la vie personnelle, que j'oublie encore, et la vie de métier, enfin de médecin de famille, je pense que... Il faut voilà, peut-être éduquer les patients dans se rendre compte que le médecin, malheureusement, il ne sait plus répondre à toutes les demandes parce qu'il y en a de moins en moins. Donc ça, je crois que ça joue aussi. Et de faire en sorte de faire un partenariat. Donc moi, j'avoue que je suis beaucoup plus pour voir les patients en vrai, faire de la prévention, faire de la globalité. Et je crois que les gens en ont vraiment besoin hein, parce qu'il y en a plein qui sont traumatisés. Enfin, il y a plein de couples qui sont séparés. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas été voir le cardiologue, qui n'ont pas été voir les spécialistes parce qu'ils ont eu peur, qui n'ont pas fait leur mammographie, qui n'ont pas fait leur protégé gynéco. Et donc je pense qu'il est grand temps qu'on revienne vers des vrais contacts. Et la médecine téléphone, ça doit rester pour moi de la médecine ponctuelle pour dépanner, pour éviter de contaminer d'autres patients. Mais c'est clairement pas... Moi, j'ai pas fait la médecine pour me retrouver devant un PC à faire des demandes Covid et des certificats médicaux et à gérer un call center et avoir l'impression de travailler pour la réservation de place pour Tomorrowland au niveau de l'abondance du téléphone, quoi.
Ouais. On espère que ce sera bientôt un mauvais souvenir.
Oui, on l'espère. Je l'espère de tout cœur. Je pense voilà, qu'il est grand temps de réfléchir, de valoriser les infirmières, de valoriser les aides-soignants, même les professeurs, voilà, de tous les métiers de base, et de revenir vers le vrai, vers les vrais métiers aussi, et la communication, soit le journalisme, mais peut-être le journaliste non sensationnel, mais le journaliste qui défend les vraies causes, et j'espère de tout cœur, effectivement, voilà, qu'on pourra en tirer les leçons de cette gestion qui a été quand même un peu chaotique, et de voilà de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire si jamais voilà il y a un nouveau virus qui arrive, ce qui pourra toujours arriver, et je le souhaite de tout cœur pas, mais je pense qu'il y a toujours moyen dans les situations compliquées d'arriver à en discuter, de dialoguer et de se remettre en question, même nous aussi. Mm-hmm. Peut-être qu'on aurait pu faire les choses différemment aussi, voilà. Maintenant, les médecins qui ont été beaucoup moins disponibles, moi j'avoue, voilà, j'ai pris beaucoup de cheveux blancs là-dessus parce que j'ai voulu ne rien lâcher.
Et tu penses que si un autre virus arrive, on a les enseignements nécessaires pour y faire face?
Alors je pense qu'en tout cas en tant que soignant, je crois que oui. En tant que politique, je pense qu'ils ont quand même l'air de faire compliqué quand on veut faire simple. Par exemple, le site masanté.belgique.be, il faut aussi pour moi faire quelques mois d'université en plus ou d'école supérieure pour le comprendre. Et donc je pense ce qui serait important, c'est d'insister sur la communication qui doit pour moi être claire et cohérente. Ça, c'est indispensable. Le respect de tous les soignants, et donc pas la fameuse Maggie Le Bloc qui nous a dit c'est une simple grippette et on envoie les médecins traitants sous le front sans protection pour protéger les hôpitaux, parce que c'est quand même ce qu'elle nous a dit au départ. Donc, alors que les médecins soi-même, et qu'il y a quand même au départ 10% des décès dans le monde qui étaient des soignants, mm-hmm. et qu'il y avait probablement des familles aussi derrière et des enfants derrière aussi. Donc ça, je crois que c'est important qu'il y ait une meilleure communication, qu'il y ait une meilleure et qu'on anticipe. Qu'on anticipe et qu'on fasse pas des mesures tout ou rien, ou à la fois on libère tout et puis on dit tout est bon, et puis on se rend compte qu'on était trop loin, et c'est que quand la mer est à un niveau record, mm-hmm. que là on dit on va peut-être faire attention je pense qu'anticiper ce serait vraiment important. Je crois qu'anticiper, dialoguer, communiquer, respecter, notamment les infirmières, le travail de fou qu'elles ont fait en se mettant en danger aussi. Quand on voit les pensions des infirmières à l'heure actuelle, franchement, ça pose question. Moi, j'ai une infirmière avec laquelle je travaille depuis toujours, qui a travaillé pendant 40 ans, je crois qu'elle a 1 200 euros de pension par mois. Mm-hmm. Enfin, je trouve ça une honte. Voilà. Tout comme nos honoraires à nous, même si voilà, je ne suis pas la médecine pour le côté financier, mais on a été augmenté, je crois, de 15 centimes ou de 20 centimes, c'est un essai brut, par consultation, alors que pendant 2 ans, on a tout donné.
C'est dingue. Ouais.
C'est, voilà, quand on voit la facture de faire le plein d'essence, l'électricité, le gaz, on se dit un peu où sont les priorités.
Et quand on voit les salaires de certaines autres professions, utiles.
Voilà. Donc c'est vrai que 15 ou 20 centimes, je ne sais plus combien c'est si on est conventionné, je me dis que c'est quand même un peu... En ce cas-là, c'est mieux de pas augmenter, je crois.
C'est ça.
Donc voilà. Mais bon, c'est pas la partie importante de nos vies. Mais ça, par contre, il y a le respect qui est derrière par rapport à ça. Mmh. C'est plus cet enjeu-là qui est vraiment important.
Oui, et l'envie aussi qu'on donne... aux jeunes de faire ce métier.
Oui, et ça, c'est vrai que par contre, c'est une de mes grandes, grandes inquiétudes. C'est que pour moi, ça reste un métier magnifique, de chez magnifique. Mais je me dis, quand on voit la manière dont la médecine générale a encaissé les 2 ans de crise, j'ai peur qu'on ait quand même dissuadé pas mal de médecins. Par exemple, il y a un médecin que j'adore qui est survenu, qui va arrêter probablement. Et il y a plein d'assistants qui sont en période de doute parce que, voilà, par rapport à leurs idéaux, c'est clair que qu'encaisser la pression des patients et de devoir gérer des demandes informatiques que n'importe quel call center pourrait gérer, ben on se demande un peu si ça a du sens. Mm-hmm. Alors que notre rôle est d'être là pour les patients, d'accompagner les patients en fin de vie, d'être là pour entourer les personnes qui avaient peur et des inquiétudes, pour continuer à qu'il y ait un lieu d'écoute, parce que voilà, parce qu'il y a une détresse humaine qui a été colossale. Hein, je veux dire, donc quand on voit à tout point de vue, que ce soit dans le domaine de l'horeca, le domaine d'événements, la culture... on a dû gérer une souffrance qui était énorme. Et ça, notre métier de médecin de famille, c'est ça. C'est pas commencer à faire 30 codes, demandes de codes par jour pour des gens qui partent ou qui sont symptomatiques, contact à risque, quoi.
Ouais. Comment, selon toi, en tant que personne, pas spécialement en tant que médecin, rester serein lorsque les temps sont aussi incertains? À quoi se rattacher?
Alors, rattacher, je pense aux valeurs de base, donc c'est-à-dire déjà simplement à contempler la nature dans laquelle on habite, qui est juste magnifique. Mmh. Donc moi, j'avoue qu'il y a des fois où je m'arrêtais parfois entre deux domiciles et je regardais juste 2 secondes le paysage. Pourquoi la famille, pour moi, c'est fondamental. La famille, le couple, ça c'est clair que voilà, j'ai la chance d'avoir une épouse en or et des moments extraordinaires par rapport à nos enfants, ça c'est sûr que ça joue beaucoup. Maintenant, je suis probablement beaucoup plus conscient parce que j'ai failli la perdre suite à la naissance de notre 3e enfant. Et donc, je sais bien que voilà, quand on est si proche du décès de la personne qu'on préfère le plus de la Terre, ça remet beaucoup de choses en priorité. Je pense les amis aussi, les vrais amis, parce que je pense que c'est là qu'on se rend compte que même si on a, je sais pas combien d'amis sur Facebook, c'est peut-être ceux auxquels on pense moins qui sont là présents et auxquels on a envie de pouvoir les aider aussi. Ça, je crois que c'est important aussi. La culture, pour moi, c'est indispensable. Que ce soit voilà, le côté cinéma, notre petit cinéma de village tout près qui est super chouette. Les musées aussi, les expos, je pense que c'est... Enfin, le côté ouverture culturelle, c'est pour moi fondamental. Donc j'ai ressenti ces choses-là. Bah, le sport, c'est vrai que je ne suis pas un grand sportif à la base, mais c'est vrai que ça fait un bien fou. Je veux dire, à la fois, j'y vais chaque fois avec des pieds de plomb en me disant au secours, il fait froid. Et autant après, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait du bien.
Ouais, après, on est bien content.
Ouais. Donc voilà.
Et justement, en parlant de culture et autres, as-tu un coup de cœur à nous partager pour un livre, un film, quelque chose que tu as vu récemment?
Alors, c'est pas récent, même si c'est ressorti il y a pas longtemps, mais moi j'ai toujours mon grand coup de cœur pour le film Le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, où je l'avais été le voir à la sortie. En voyant l'affiche dans le métro près de Montgomery, j'ai eu un coup de cœur. Et je me suis dit, je veux aller le voir par rapport à ça. Donc je l'ai vu avant toutes les critiques. Je sais qu'il est ressorti pour les, je crois, 20 ans maintenant, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller le revoir, mais j'espère que je pourrai encore aller le voir. Parce que c'est vrai que pour moi, ça reste un film sur la vraie vie, sur l'insouciance, sur les vraies valeurs et sur la simplicité. Quoi.
Très poétique.
Voilà.
Je suis bien d'accord.
Ouais.
Ben merci beaucoup Gaëlle pour cette interview très inspirante, très intéressante.
Merci.
Et
merci.
À bientôt.
Merci pour tout en tout cas.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager avec vos amis ou à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Un grand merci et à très bientôt.